France Inter.
C'est vrai que c'est beau ici. Si on prenait le vignoble à zéro, on pourrait faire un vin magnifique.
Mais il y a tout ici, absolument tout.
CO2, mon amour.
Il y a des bois, il y a des vignes, il y a des fruits, il y a des légumes.
Il y a même une source.
Beaucoup de gens pourraient vivre ici.
Ouais. Ici, au moins 100. On pourrait faire un très grand potager là-bas.
Ouais.
Planter des pommiers, des poiriers, un peu de blé.
On pourrait agrandir la basse-cour.
Oh oui, les œufs frais.
Denis Chessou.
Vive la Révolution !
Vive la Révolution !
Eh ben oui, il y a tout dans Milon en mai, et puis aussi dans la Drôme et la Lozère, vous allez voir. Bonjour à toutes et à tous, heureux de vous accueillir dans CO2 Mon Amour, la nature qui chuchote à vos oreilles, avec Loïc Frapsos à la technique aujourd'hui, Camille Blanès est notre collaboratrice, et Xavier Pestudia a colorisé, réalisé l'émission. Alors c'est le printemps qui galope en avance avec l'autorisation de l'hiver, mais qui reviendra plus tard avec son sac de gel comme il sait faire. C'est le printemps dans le ciel tourmenté. On y voit de très jolis balais. La migration des missiles, basses et longues ailes. Bonne nouvelle, la nidification des bébés drones est prometteuse cette année. La reproduction des couvées d'ogives nucléaires est heureuse, sauf en Iran où leur survie semble perturbée. Malgré la lumière qui remonte chaque jour un peu plus, la démocratie reste en partie enfouie dans son terrier. Décapité comme un canard qui continue à marcher, on a vu la liberté, la négociation, l'état de droit, la diplomatie, les règles internationales errer dans les rues et dans les champs, cherchant une direction. Les animaux sont à l'honneur. Une opération moyennement pacifique se nomme « Rugissement du lion ». Mais foutez-moi la paix avec vos métaphores ridicules. Je mange une gazelle tous les 8 jours et puis, une fois mon territoire acquis, je ne cherche plus à l'agrandir. Et moi, dit le puma, je ne veux plus qu'on m'associe à un véhicule d'infanterie ou à un hélicoptère. Et moi, se questionne le pigargue, est-ce que je dois quitter le dollar et ne plus être l'emblème américain que je suis depuis 1782 ? Ah bah oui, il a été beau mon pays quand même. Nous étions dans le premier quart de ce 21e siècle éclairé, censé être spirituel ou ne pas être. « Je glousse !» dit le dindon. En fait, la guerre contre les humains et contre le vivant battait son plein. Le plein, qui justement devenait le centre des préoccupations du réservoir de beaucoup de Français qui ont vite appris où se situait le détroit d'Ormuz. Bref, ce quart de siècle était une réussite exceptionnelle, peut-être un échantillon, une bande-annonce de l'opiniâtreté humaine à désinguer les espèces, dont la sienne. Et d'ailleurs, que voit-on dans l'actualité montagnarde ? Eh bien, le lagopède, la perdrix blanche, est en voie de disparition. Bon, faudrait-il donc s'abaisser jusqu'au sol en soumission totale et leur baiser les bottes pour faire entendre raison aux instances chasseresses ? Que le Conseil d'État en soit encore aujourd'hui, en 2026, a demandé au gouvernement une halte au feu de 5 ans concernant la survie de la perdrix des neiges, ça nous donne, si vous voulez, une idée de l'épaisseur du béton armé qui protège les sales habitudes de certains tenant de la gâchette. Nous savons que le lagopède alpin est une espèce relique des temps glaciaires qui a beaucoup de mal à conserver ses maigres effectifs depuis des années, qu'il subit de plein fouet le réchauffement. Comme pour la gélinotte et son cousin le tétralyre, les activités sportives d'altitude, randonnée avec ou sans raquettes, ski hors piste, tir de déclenchement d'avalanches et autres loisirs, transforment les cimes en luna park 4 saisons permanents. Et ça dérange évidemment son hivernage et le chasse de ses derniers repères. Donc nous avons une furieuse tendance, nous les hommes, oui, je dis bien les hommes, à prendre tout le lit quand nous allongeons nos grandes cannes quelque part et à furieusement tirer la couette. Alors essayons simplement de ne plus tirer du tout pour commencer sur le lagopède. La chasse en montagne n'est qu'un loisir pour une minorité d'une minorité, mais qui vote, eh oui. Alors ce n'est pas faute de le répéter, hein. La faune sauvage est un patrimoine qui, appartenant au regard de tous, n'appartient à personne. Et qu'il ne suffit pas à une minorité de payer un permis au rabais pour s'arroger le droit d'exterminer une espèce emblématique. Alors va, pauvre lagopède, planquer ton nid et cacher ton beau manteau blanc avant qu'on le perle de rouge. Donc, amis lagopèdes et auditeuristes de France Inter, laissons planer les vautours dans cette émission. Nous avons besoin d'eux comme de l'ensemble du vivant. Direction le parc naturel régional des Baronnies Provençales, dans la Drôme à Rémusat et puis après dans le Causse-Méjean, dans les gorges de la Jonte en Lozère.
This is why when you tell me that that you love me. Something you said, oh, 1,000,000 times. I pretend that I don't care and act like I didn't hear. I even fight back a smile. And this is why, when you tell me that you love me, these three words make me want to cry. Imagine what your kisses do when mixed with an I love you. You make me feel like I can only die. You make me hot in December, even my name can't remember. But whenever we're together, babe, what the, I'm scared it's you. This is why, when you tell me that you love me, I must be loud and clear, be bold, not shy. I want to forever stay together where we lay, and for you to know you're always mine. You don't need no words to know just how much I love you so. A wise man said long ago, eyes don't lie.
Très agréable playlist choisie par Thierry Dupin, donc Alani sur France Inter. Je vois que les vautours ont beaucoup aimé. Si, si, ils nous attendent.
Si vous levez les yeux, vous avez donc, avant la montagne du Caire, vous avez quand même l'ancien village, ah oui, avec son mur de défense.
Une chapelle superbe.
Et la superbe chapelle, voilà, Sainte-Trope-Saint-Michel. Ouais. Et puis après, quand vous montez, vous avez 125 mètres jusqu'à la croix de falaise. Et là, vous avez l'accès, regardez, vous avez même un vautour qui va passer sur le côté. Voilà, donc vraiment un lieu magnifique et qui est reposant et agréable et qui permet aussi d'être protégé du vent parce que nous sommes entourés de plusieurs montagnes. Donc ça nous permet d'avoir un environnement magnifique. Pour moi, Rémusa, les vautours, c'est ce qui est toujours ensemble. Donc quand je parle de Rémusa, je parle des vautours. Hein. Et puis nous avons la chance d'avoir les quatre espèces de vautours présentes. Donc le gypaète berbu, le vautour fauve, le vautour moine et le percnoptère. Ouais. C'est un projet en fait qui, donc, on a mis 7 ans pour le faire.
Nous sommes dans la Drôme, à Rémusa, dans le parc naturel régional des Baronnies Provençales. Alors le vautour, depuis des centaines d'années, il y avait sa place. Après, il a été chassé, exterminé. Et puis, heureusement, comme tous les êtres humains ne se considèrent pas comme maître et possesseur de la nature, il fut protégé et réintroduit. Et la maison des vautours de Rémusa, dont je suis l'heureux parrain, maintenant j'ai l'âge d'être parrain, a été inaugurée en avril 2025, après 7 années d'un travail collectif, mais vraiment transpartisan, on y reviendra. Communes, Comcom, départements, régions Rhône-Alpes, PNR, syndicat d'électricité, Union européenne, l'association Vautours en Baronnie, avec le travail de Christian Tessier. Et je ne sais même pas, moi, qui vous qui dites tout ça, que je m'appelle Vautour, c'est dérivé du latin volture, véléré, arraché, déchiré. Bec crochu, cou dénudé pour mieux pénétrer les chairs, me nourrissant de charogne et de détritus. Oh là là, tu parles d'une carte de visite et va te faire aimer des humains après tout ça. Bon, alors justement, cette maison leur donne l'occasion de comprendre pourquoi et comment fonctionne un vautour. Première partie de cette émission, la Drôme, avec François Morel, génial fabricant d'appos, et Christian Couloumi, président d'Envergure Alpine. Et puis deuxième partie, je vous emmène en Lozère, dans les Gorges de la Jonte, qui est le berceau de la première réintroduction en France. Alors, j'ai pas convoqué le vautour qui accompagne le croque-mort de Lucky Luke, non, mais sûrement plus Olivier Salin, donc un amoureux de Rémusa, qui, quand il ne s'occupe pas des routes de son département de la Drôme, a soutenu le projet de cette maison des vautours. Mais la première maison des vautours, c'est quand même le ciel et les falaises.
L'avantage de ce projet, c'est qu'aussi, il est transpartisan, puisqu'on a pu le voir aujourd'hui.
Complètement, c'est une concorde, il n'y a pas du tout d'opinion politique par rapport aux vautours. Donc il y a eu un travail aussi avec les chasseurs et les naturalistes.
Tout à fait, et je pense que c'est sur des projets comme ça qu'on arrive à créer du lien, et puis aussi à dépasser justement tous les dômes qu'il peut y avoir et toutes les idées que l'on peut avoir. Chacun après garde son identité, mais ça permet d'avoir une structure qui est accueillante et qui est aussi ambitieuse, et je pense qu'il mettra en valeur le territoire des baronnies en Drôme-Provençal, et plus particulièrement aussi les vallées de l'Aigue et de l'Oule. Et je pense que c'est aussi pour essayer d'étendre, comme l'on dit au niveau du tourisme, les ailes de saison. Ça permet aussi, puisqu'on sait que les saisons pour les vautours ne sont pas les saisons pour les êtres humains, donc ça permet d'avoir un lieu d'accueil.
Réintroduit pour la première fois en 1996, les vautours ont repris possession du ciel des baronnies.
Là, il y a 3 nids occupés en ce moment.
Chaque hiver, les ornithologues professionnels ou amateurs viennent de toute la France pour observer ces rapaces de 3 mètres d'envergure en pleine parade amoureuse pendant la période de reproduction. Ils flottent dans l'azur, toujours à la recherche de quelques branches pour fabriquer leur nid.
C'est magnifique. On dit tout ça, on s'en lasse pas parce que c'est tellement beau.
Cette façon de se déplacer pratiquement sans jamais bouger les ailes quand il y a un petit peu de vent.
C'est beau à voir.
Bonjour François Morel.
Bonjour Denis.
François Morel, on a les yeux au ciel, c'est formidable, parce que là, nous avons des vautours.
Oui, des vautours.
Quelle altitude.
Ils sont très hauts, on n'arrive pas à discerner si c'est vautour fauve, vautour moine, ils sont trop petits, mais ils vont descendre, ils tournent là, ils prennent le thermique à l'envers, comme si on prend un ascenseur à l'envers, ils vont descendre, et ils vont se rapprocher de cette grande falaise, c'est le rocher du Caire, ça s'appelle. C'est une falaise qui surplombe notre village de Rémusat. Et de l'autre côté, c'est magnifique, il y a le plateau Saint-Laurent, qui est presque méditerranéen, où on trouve des fauvettes pitchous, des moineaux soulcis, enfin bref, toute une sorte de... Et alors, le vautour, ils descendent là, ils sont 3, ils descendent. On dirait qu'ils vont se fracasser contre le rocher, mais non, ils vont rejoindre les espaces où ils ont installé leur nid.
Alors, on a à la fois des nids et des dortoirs. Les nids, ça va être pour la reproduction.
Oui. Là, tout de suite, à l'heure qu'il est, il rentre au nid. Ils vont sûrement remplacer leur congénère qui était en train de couver. Ils sont en train de couver, là. Et ils sont dans ces failles, là, et ils s'installent. Là, on en a, je ne sais pas combien de coups, au moins une dizaine, là, 2-3 par ici. Là, il y en a à nouveau 2 qui arrivent, là, au-dessus. Ils vont tout doucement, ils vont repérer, et ils foncent. Et ensuite, ils écartent les ailes, là, et ralentissent comme des arrêts au frein. C'est extraordinaire. Et hop, hop, ils se posent délicatement. Et ils vont rejoindre leur compagne ou leur copain, ça dépend.
Regardez-le donc, ce pauvre petit déplumé. Attends, viens ici, poussin.
Laissez-moi tranquille. Personne ne veut de moi.
Oui, nous, on te comprend. C'est pareil, personne ne veut de nous. Oui, on a peut-être l'air minable, mais on a du cœur. Nous allons te laisser te joindre à notre bande.
Poussin, on aimerait faire de toi un vautour, un oriscosa.
Mon ami, on sera toujours près de toi, tout près de toi.
Alors, quand on est compagne, d'ailleurs, on est vautouresse.
Vautouresse.
Vautouresse. Et quand on est un petit, c'est bien un oisillon.
Oui, c'est les oisillons, bien sûr.
Alors, ils ne savent pas tout le travail qui a été effectué donc, avec l'association Vautour en Baronnie, et puis vous, et puis qui l'autre à l'origine?
Eh bien voilà, Vautour en Baronnie, c'est une association qu'on a peut-être bien 30 ans maintenant. L'idée, les baronnies, c'était autrefois, il y a très longtemps, vraiment un territoire à vautours, puisque c'était aussi un territoire à élevage, depuis toujours. Les vautours avaient disparu de la faute des hommes qui les avaient descendus, tués, empoisonnés, etc. Et donc l'idée était, réintroduisons, faisons en sorte que le vautour puisse revenir ici, dans ce territoire. Et s'il revient, à quoi il sert? Eh bien, il sert à aider les éleveurs à se débarrasser des carcasses, malheureusement, des brebis, des agneaux qui meurent. Ça arrive dans un élevage.
Nos équarisseurs naturels, quoi. Voilà.
Et donc voilà, on est allé chercher des vautours, on les a mis dans des cages, face aux falaises, et on leur a dit, regardez bien ces falaises, ça va être pour vous. On les a laissés longtemps, comme ça, tranquille. Et puis un jour, on a ouvert les falaises, quand on a vu que ces vautours s'entendaient.
C'est bien, parce que vous avez dit ouvert les falaises, mais c'est joli. Parce
on
que
a ouvert aux falaises, pardon.
Voilà. Non,
on a ouvert aux falaises, et les vautours sont allés découvrir ces falaises, et se sont reproduits. Et voilà, maintenant, on en est à 200, 240, 250 couples.
Ouais.
Qui se reproduisent dans toutes les baronnies, c'est-à-dire un grand territoire qui fait toutes les falaises qu'on trouve ici, du sud Drôme. On va aussi un petit peu dans les Hautes-Alpes. Vautour en baronnie, outre ces naturalistes et tout ça, on a un service d'écarissage, c'est-à-dire que tous les 2 jours, nous partons chez les éleveurs qui font la demande, récupérer les carcasses et ensuite on les emmène dans des placettes sanitaires agréées par l'administration où les vautours peuvent venir casse-courter.
Oui, et là c'est gratos. Et nous fêtons quand même cette maison des vautours, donc ici à Rémusat, commune de 340 habitants. Et là c'est génial parce que ça va être un attrait alors, à la fois écologique, touristique, économique.
Pour moi, c'est l'attrait naturel. C'est, les gens ont envie de voir qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que c'est, ces grands oiseaux magnifiques qui planent, etc. Et donc, dans cette maison des vautours à Rémusat, qui est juste située au pied du rocher du Caire, c'est-à-dire que ce n'est pas inventé, c'est là, ça fait partie du paysage. Et cette maison des vautours, ben, on apprend quoi ? On apprend qu'est-ce que c'est qu'un vautour, d'où ça vient, comment ça vit, qu'est-ce que ça mange, pourquoi c'est difficile pour eux. On parle aussi des vautours dans l'Antiquité, on raconte vraiment toute l'histoire des vautours.
Alors ce qui est assez formidable, François, c'est qu'en fait, ces vautours réunissent des gens tout à fait différents.
Ben, si on regarde les hommes qui se sont occupés de vautours en baronnie, donc cette structure qui chapeaute tout ce programme, ben, si on regarde les gens qui sont dans cette association depuis le début, eh bien, on voit qu'il y a des élus, c'est normal. Il y a des naturalistes, puisqu'ils ont mis le feu au lac. Mais on a aussi les éleveurs, ce qui est normal, les éleveurs, les bergers, les hommes de la terre. Et on a aussi les chasseurs qui d'habitude sont là pour chasser. Et là, ils sont avec nous dans Vautour et Baronnie pour protéger cet environnement, pour faire en sorte que ça fonctionne. On a aussi les randonneurs, on a aussi les gens du tourisme. Tout le monde s'est réuni dans cette structure Vautour en Baronnie. Et ça fait 30 ans que toutes ces entités différentes et opposées, des fois sur certains chapitres, arrivent à s'entendre et à créer ensemble et à réaliser ensemble la maison des vautours et aussi la réintroduction et le suivi de ces quatre espèces de vautours.
Eh ben, un grand merci, François Morel. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter ?
Que cette année, les percnoptères reviennent. Le vautour percnoptère, c'est le seul qu'on ne peut pas réintroduire parce qu'il est migrateur. Et donc, c'est lui qui fait sa vie, il fait ce qu'il veut.
Il est un peu égyptien, je crois.
Il est un peu égyptien, celui qui est chez nous. Il est reparti plus sur le Maroc, mais enfin bon, voilà. Mais c'est effectivement, dans son nom, le percnoptère d'Égypte, on peut dire, voilà.
Et oui.
Et, très bien, Denis.
C'était donc, assez facile.
Parce que... Oui, mais donc, ce qu'on peut souhaiter, c'est que cette année, on en ait plus qui reviennent, attirés par la présence des autres. Normalement, logiquement, il a vraiment sa place parmi nos vautours ici.
Voilà. Et puis on vous offre, vous ne les voyez pas, mais vous les imaginez. Donc là, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
Oui, mais là,
7.
Ils sont sur, les, sur le thermique, ça y est, ils remontent.
Ah ouais,
et voilà, et ils arrivent à la pointe du rocher du Caire. Et peut-être, on le voit à peine, mais il y a un martinet à ventre blanc là qui, ouais, qui descend.
L'oiseau des 100 jours, le martinet.
Voilà, là-haut, il y a encore un autre vautour qui revient du plateau. C'est vraiment magnifique. Et on voit ça à l'œil nu. Hein. On n'est pas obligé de prendre des jumelles et tout ça.
Martinet aussi. Et hop là, ça y est, ça circule. Il faut en profiter hein, parce qu'il n'est pas là très souvent.
Le martinet, oui, mais les vautours sont là toute l'année. Donc vous êtes bienvenus toute l'année.
Hé, hey, oiseau, tu descends ? Comme ça, on discute en mangeant ce délicieux fromage.
Certainement pas. Et puis, c'est pas du tout comme ça qu'il faut s'y prendre. Faut me dire des trucs sympas. Que je suis beau, tout ça. Des trucs gentils sur mon plumage, mon ramage, enfin tout le toutim, tu piges.
Ah oui, mais ça va pas être possible. Parce que tu es l'animal le plus laid que j'ai jamais vu. Excuse, hein, mais mentir, c'est pas bien. Dire que t'es beau, ce serait un gros mensonge. Ce serait très, 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 très mal.
Non, mais ça va, oui. Fais gaffe à ce que tu dis quand même.
Bonjour Christian Coloumi.
Bonjour Denis.
Alors on a les yeux au ciel là. Le soleil vient de passer là.
Le soleil vient de passer. Avec lui s'est levé ce vent du soir pendant quelques minutes qui lui succède. Et ça se produit évidemment au coucher du soleil maintenant. Mais dans la journée, s'il passe un nuage, c'est la même chose. Il y a un petit coup de vent là, frais, qui succède immédiatement au soleil. Et le soleil revient, le vent s'en va.
Et justement, bah nous ce que nous regardons, ce sont des oiseaux qui volent, mais qui après qui vont rentrer leurs ailes. Car nous sommes... allez, à quelques centaines de mètres, on va dire, d'un dortoir. Dortoir de qui ?
Ce sont des vautours qui viennent le soir, les soirs d'été, lorsqu'ils sont en estive ici, se remiser, se coucher, passer la nuit dans une falaise inaccessible, en attendant que le soleil se lève le lendemain, que le soleil réchauffe l'air dont on vient de parler, que cet air léger s'élève et que ces oiseaux se jettent dans cet air léger qui va les propulser. Il y a du vide devant eux, oui.
Alors ces vautours donc, sont revenus, donc ils ont été réintroduits, il y a tout un travail qui a été effectué. Et puis il y a un autre oiseau emblématique que vous adorez, vous aussi, en tant que président d'Envergure Alpine, c'est quand même le gypaète barbu. Bon, il faut quand même imaginer qu'on dépasse largement les 2 mètres d'envergure.
Ah oui, 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 pour le vautour fauve, c'est environ 2,50 m, donc c'est un très gros oiseau qui peut peser plus de 10 kg, hein, entre 7 et 11 kg, les statistiques disent ça. Et pour le gypaète, il est beaucoup plus léger, il est plus grand, son envergure est plus grande, mais 5-7 kg, c'est un logier qui vole très très bien, qui plane au ras des pentes, beaucoup d'élégance, le gypaète. C'est un transhumant. On pourrait presque dire en s'amusant qu'ils viennent chez nous avec les troupeaux quand ils sont perchés sur le camion pratiquement, et puis ils descendent quand le camion redescend, à peu de choses près. Donc au mois de mai, là, il y a des précurseurs, des pionniers, des aventuriers qui viennent voir un peu ce qui se passe. Alors je ne sais pas ce qu'il raconte en rentrant dans les colonies d'où il vient, mais si c'est bon, on voit arriver les autres. Et c'est bon à peu près au 15 juin, là, quand les moutons sont montés.
La passion des oiseaux, elle vient d'où pour ces rapaces en particulier ?
Oui, je ne sais pas si on peut expliquer les passions. Peut-être, voilà. Peut-être qu'au fond de soi, on a chacun quelque chose de prêt pour une rencontre. Moi, j'ai flashé pour les oiseaux. Voilà. Je ne peux pas l'expliquer parce que c'est une passion. Une passion ne s'explique pas. C'est comme un coup de foudre. On n'explique pas pourquoi.
Christian Coulomouy a écrit un ouvrage de référence aux éditions Glénat qui s'appelle « Rapaces entre ciel et terre ». Puis pour les enfants, moi je vous conseille aussi « La grande aventure des vautours » aux éditions Plume de Carotte, qui était en association avec le PNR des Baronnies, justement. Donc la maison des vautours de Rémusat vous attend. Et qu'est-ce qui vous attend ? Bah aussi la Lozère, d'autres vautours. Oui, c'est là qu'ils ont été réintroduits la première fois. Après quoi ? Un petit bal ? Allez, hop !
Je quitte mon père, la ville attend les petits rats des champs. Une jolie fermière me dit où vas-tu ? Monte derrière avec les laitues, les pieds dans le ciel, chez les hirondelles. Nous filons doux et la route est à nous. Petit, la vie est belle à l'école buissonnière. Nous irons danser au bal des oiseaux près de la rivière. Les prés sont verts, quel âge as-tu toi? Morceau de pain, la campagne se prête à tout, mais la ville pas du tout. Nous irons danser au bal des oiseaux près de la rivière. Da da da.
Fersen, le bas, le des vautours, ou presque en tout cas des oiseaux. Je vous emmène maintenant en Lozère. On va quitter donc ce beau département de la Drôme pour en voir un garou là qui est aussi super. Vraiment, c'est celui de la Lozère. On va se retrouver sur le Cosmégen. Donc vous avez les gorges du Tarn d'un côté, vous avez les gorges de la Jonte de l'autre. Et puis vous avez cet observatoire, pas loin hein, des oiseaux, devenu d'ailleurs la maison des vautours donc en Lozère, à Saint-Pierre-des-Tripiers, dans les gorges donc de la Jonte. Et là, nous avons un homme qui a tout connu de la réintroduction, ça s'est passé là en France, mais oui, donc en Lozère, avec Constant Bagnolini.
On est sur, carrément sur le perchoir de la coupe de vautours moines. Tu as le nid qui n'est pas très loin. Ouais. Si tu te penches un peu là au-dessus de la falaise...
Non, je me penche pas.
Tu peux voir ce nid. Alors le vautour moine...
Non, on le voit. Là.
Hein, on le voit. Ça fait une plateforme au sommet d'un arbre, puisque le vautour moine nid dans un arbre. Alors, ici a eu lieu la réintroduction qui a commencé par aller lâcher le 15 décembre 81 des vautours fauves, grâce aux initiateurs que sont Michel Terrasse et qu'était Michel Brosselin. Ce sont eux les pionniers qui ont eu l'idée de la réintroduction des vautours. Donc, réintroduction des vautours unique au monde. On ne savait pas comment faire.
Ce n'était pas une première française, c'était une première mondiale.
C'était une première mondiale, donc il n'y avait pas de référent. Tout ça, c'était vraiment artisanal. Hein. C'était que du bénévolat. Les premières personnes qui se sont occupées de ça, ils sont allés chercher des vautours fauves donc, en Espagne, des jeunes malades blessés d'unétrie qu'ils ont mis en captivité.
Ah oui, on avait refilé un peu des gueules cassées. Quoi,
on avait filé, un peu tous les éclopés espagnols. Et aussi des vautours nés en captivité. Donc c'est une opération de réintroduction qui a réussi à force de tâtonnements, puisque en 1974, ils ont commencé le premier lâcher. Cinq oiseaux, des immatures, mais ça a été un échec. Et un échec risque d'enseignement, puisque ça a amené en 81. À partir de là, ils ont décidé de ne lâcher que des oiseaux adultes qui étaient accouplés, qui ont tenté ou réussi une reproduction en captivité.
Alors aujourd'hui, 1700 couples à peu près.
Aujourd'hui, 1700 couples, c'est un grand succès. Alors devant ce succès, hop, arrive en 92, la réintroduction du vautour moine.
Alors celui-là, il nous intéresse, parce qu'en fait, il est beaucoup moins connu, le vautour moine. Je crois que c'est le plus grand, on va dire, voilier, un des plus grands voiliers d'Europe, non?
C'est le plus grand rapace d'Europe avec le gypaète. Hein, il fait dans les 2,90 m d'envergure. Il est plus lourd que le gypaète, il fait dans les 10 kilos. Et alors moine, parce qu'il a la couleur de la robe de bure et une petite tonsure au-dessus de la tête. Alors le moine, la particularité, c'est que c'est un oiseau qui se nourrit principalement ce qu'on appelle les chairs dures, contrairement au vautour fauve qui est spécialiste. Ah, regarde.
Des chairs. Ah oui.
Un vautour fauve qui passe au fond de la vallée. Alors, tu vois, il bat des ailes. Parce que là, il est quelle heure? Il est pas loin de 10 heures.
Ouais. Donc il n'a pas encore les ascendants, les chauds.
Voilà. Okay. Il n'a pas les ascendances thermiques, donc il bat des ailes.
Donc il crame de l'énergie, là.
Il crame de l'énergie, mais il sait où il va, hein, manifestement. Ouais, il va aller se poser quelque part. D'ici deux heures, ici, ce sera l'envol des vautours. Alors là, c'est
un balai.
Magnifique, magnifique. Ouais. Moi, j'ai connu donc les gorges de la Jonte vides de vautours. Et maintenant, comme tu disais, il y a 1700 couples de vautours fauves. Le moine, il y a 26 couples. Donc, c'est beaucoup plus rare. Et le moine, la particularité, donc, c'est qu'il mange des chairs dures. Les tendons, les cartilages, les nerfs, la peau. Il est spécialiste, le vautour fauve, donc les chairs molles, les viscères, les muscles.
Le gypaète barbu, lui, va s'occuper des os.
Le quebrantahuesos, hein, des Espagnols, le casseur d'os. Donc lui, il s'occupe des os, il mange les os. Et il y a un autre petit vautour qui est revenu, lui, spontanément ici.
Le percnoptère.
Voilà, le percnoptère, et qui est revenu spontanément. Donc il y a deux couples dans la région.
Hey, Flaps, qu'est-ce qu'on va faire?
Je n'en sais rien, que veux-tu faire?
J'ai une idée. Allons du côté du soleil levant. C'est un coin où il y a toujours de la bagarre et de quoi manger. Ça vous va?
Gauche toujours, Ziggy. De quel côté qu'on aille, tout est mort.
Tu voudrais bien que tout soit mort.
Oh, que c'est drôle.
Alors, en face, c'est le Causse Noir. Ici, on est sur les contreforts du Mégen. Pour l'anecdote, en face, c'est l'Aveyron, et ici, nous sommes en Lozère. Les vautours n'ont que faire, hein, bien sûr.
Oui, je pense. Les limites administratives, c'est pas trop leur truc. Quoi. Donc, qu'est-ce qui vous plaît, vous, profondément? Parce que vous avez fait donc tout ce travail, là, tous ensemble, collectivement, bénévolement, mais c'était quoi la motivation?
Bon, avant tout, c'est une passion des rapaces, une passion de la nature. La nature est extraordinaire, il faut savoir s'arrêter. Ce qu'on est en train de faire, là, on se pose. Moi, j'ai eu la chance de pouvoir rester des heures sur un caillou, à observer la nature, à observer les vautours, à faire le suivi scientifique de l'opération. Donc, il se passe énormément de choses. L'observation, c'est une grande aventure. Pas besoin d'aller loin. Vous sortez juste à côté de chez vous, dans votre jardin, vous vous arrêtez, vous essayez de comprendre, de regarder. Et c'est une aventure infinie.
Constant, on sait maintenant qu'il y a eu donc aussi des réintroductions qui se sont effectuées dans les baronnies, dans la Drôme, qu'il y en a eu donc dans les gorges du Verdon, il y a ceux qui sont d'Espagne. Est-ce que tout ce petit monde-là se mélange, se croise ou bien reste sur son territoire ?
Alors, historiquement, le vautour, quand il y avait des populations florissantes au 19e, il était présent de Nice à Biarritz, dans tout le sud de la France, dans toutes les zones de moyenne montagne française. Et grâce maintenant à ces réintroductions, donc la réintroduction pionnière, ça a été celle qui a été faite en Lozère, dans les gorges de la Jonte. Après, il y a eu les baronnies dans la Drôme provençale, le Vercors, le Verdon.
Le Verdon.
Alors aujourd'hui, il y a un continuum entre les différentes populations pyrénéennes, puisque les Pyrénées, il ne faut pas oublier que, par exemple, les frères Terrasse, ils m'ont raconté que dans les années 60, il ne restait que 60 couples de vautours fauves en France, ah, ouais, qui étaient limités au Béarn et au Pays Basque. Okay. Maintenant, il y a des échanges entre les différentes populations. Donc, c'est surtout les jeunes qui sont vagabonds. Mmh. Et ils vont visiter d'autres colonies. Quelquefois, ils se fixent. Nous, on a des vautours espagnols. On le sait qu'ils sont espagnols parce qu'ils sont baillés.
Ils sont baillés.
On les a reconnus grâce à un codage de chiffres et de lettres. Donc, c'est des Espagnols qui sont venus s'installer ici et sont restés définitivement ici. C'est pour les échanges en génétique.
Donc, ce qui veut dire que ce sont plutôt donc les jeunes qui sont vagabonds et les vieux restent un peu plus sédentaires, quoi.
Les adultes sont plus sédentaires. Déjà, le couple est formé à vie. En généralité, le couple est formé à vie, mais comme chez les hommes, on ne va pas rentrer dans les détails.
Non. Mais on sait ce que c'est.
Il y a des nuances.
Ah, comme des divorces, hein, chez les humains.
Voilà, tout à fait. Ouais, ouais. Et donc, le vautour mâle, la particularité, donc, c'est qu'il niche dans les arbres. Il a une envergure beaucoup plus importante, donc il a un vol plus maniable. Il est plus maniable en vol, donc il est capable de trouver des animaux morts dans la forêt, dans ce que n'est pas capable le vautour fauve.
Donc il peut être charognard aussi, hein, c'est ça.
Oui.
Faim, on a très faim. On voudrait bien manger.
Une cuisse de mammouth grillée va nous rassasier.
J'ai faim, soir et matin, j'ai encore faim.
Charogne délectable.
Pas de viande pourrie, on va se mettre à table.
De la vermine en terrine,
on slèche les babines.
J'ai faim, soir et matin, j'ai encore faim.
Moi j'ai plus faim.
Mais nous avons aussi des gens qui vous disent ouais, mais maintenant les vautours, ils sont trop nombreux et ils attaquent des proies vivantes.
Alors maintenant, on entend parler de plus en plus d'attaques des vautours, sur, notamment sur les vaches qui sont en train de vêler. Et bien entendu, là-dessus, se greffe la presse régionale qui aime les titres associations, genre les vautours attaquent. Donc en fait, jamais personne n'a vu quoi que ce soit. Alors, ce qui se passe en ce moment, c'est une grande injustice envers les vautours. Personne n'a vu quoi que ce soit, mais tout le monde en conclut que les vautours attaquent. Oui. Ils ajoutaient à cela donc la presse qui appuie là-dessus, sans aucune preuve. La LPO, et notamment Olivier Duriez, qui est un chercheur sur les vautours, ils ont fait faire des analyses par des vétérinaires. Il n'y a rien de probant, il n'y a rien. Alors, je n'ai pas de chiffres en tête, parce que ce n'est pas moi qui m'en occupe, mais sur plusieurs centaines d'analyses, bon, il n'y a que deux cas douteux, et ce serait sur un animal mourant. Alors, vautour ou pas vautour,
ouais, de toute façon, c'était cuit.
Alors, ce qui se passe maintenant avec le nombre de vautours importants, ici, on n'a pas l'air, mais on est surveillé par plein d'yeux. Là. Oui. Et des yeux extraordinaires, hein, parce qu'un vautour à plus de 3600 mètres, il voit un objet de 30 cm.
C'est ça, oui,
et donc,
ça.
Le paysage...
Il regarde l'heure sur ma montre. Voilà,
c'est ça. Le pays est quadrillé par les vautours. Alors, dès qu'il y a une bête morte, c'est sûr, il arrive 50, 100 vautours. Alors, c'est vrai que c'est la première fois que vous voyez ça, ce qu'on appelle la curée. C'est sûr que c'est impressionnant. Un vautour, ça fait un mètre de haut, une centaine d'oiseaux, ça peut impressionner. Mais vous risquez rien, le vautour est un oiseau charognard.
Donc, l'homme qui a vu l'homme, qui a vu l'homme, qui a vu le vautour bouffer donc une proie vivante, on ne le connaît pas. Voilà, donc c'est ça. Mais ça rejoint un peu toujours ce délit de sale gueule, c'est qu'on a toujours besoin d'avoir un coupable quelque part.
Oui, c'est surtout une méconnaissance de l'animal, quoi.
Ah! Un arbre qui a ses plumes que d'un seul côté.
Oui, alors.
Un pin, là.
Là, on est vraiment à côté de la piscine les vautours. Donc c'est une ancienne Lavogne.
Ah ouais.
Que les vautours affectionnent. Parce que les vautours, contrairement à l'image reçue, sont des oiseaux propres. Ils adorent se laver, se baigner. Et l'arbre, il est un peu usé à son sommet. Parce qu'il y a des vautours qui se perchent régulièrement dessus.
Ah ouais. Oui, regarde les copines, les copains se laver. Et après, ils attendent leur tour ou bien alors, ils se sèchent.
Ils se baignent dans la Lavogne. Après, ils montent dans la pente. Et tu vois, et là, c'est bien ensoleillé. Ils écartent les ailes.
Ouais,
ça sèche. Ils se font sécher les plumes de cette façon.
Tel le cormoran de base, pareil.
Voilà, voilà, tout à fait.
Il y avait un homme qui adorait ces oiseaux aussi, c'était Paul Giroudet.
Oui, Paul Giroudet, pour tout amoureux des oiseaux, c'est une référence. Ouais. C'est une référence scientifique et littéraire, parce qu'il avait une écriture magnifique sur les oiseaux. Ça, je l'ai vécu en direct. C'était un jour, il y avait Paul Giroudet, il était très âgé, à moitié aveugle, très fatigué. Et on lui a demandé d'écrire quelques vers sur les vautours, avec une rémige. Donc les rémiges, c'est les plumes des ailes des vautours. Et il a écrit à l'improviste, spontanément, il a écrit ces vers. Des ailes, des ailes, des ailes pour ensemencer le ciel quand brille le soleil, afin que leurs ombres reviennent caresser les flancs rocheux de la terre.
Eh bien, nous, on essaye d'ensemencer votre radio de nature chaque semaine dans ces Hauts de mon amour. Donc, allez dans ces deux maisons, hein, Maison des Vautours dans la Drôme et aussi dans la Lozère. Merci à Camille Blanès, à Xavier Pestugia qui a réalisé et colorisé cette émission. La semaine prochaine, je vous retrouve dans les Vosges, à la fois alsacienne et aussi Lorraine. Ça, il y en aura absolument pour tout le monde, vous verrez. Je vous retrouve sur Instagram, sur LinkedIn. Et puis, je vous souhaite aussi les éditos, hein, les éditos de l'application Radio France. Et donc, j'ai commencé ma phrase, je la finis, je vous souhaite une très bonne fin de dimanche.